Fréquence banane, il est 18h.
Fréquence banane, les infos.
À Lausanne, les fonctionnaires sont à nouveau descendus dans la rue hier soir pour protester contre le projet de budget 2026. En effet, ce dernier prévoit des économies à hauteur de 305 millions de francs. Une voiture a perturbé le défilé en circulant au milieu des plus de 20 000 personnes présentes dans le défilé. Il n'y a pas eu de blessés. À Zurich, une pétition anonyme réclame la séparation entre la ville et le reste du canton, suivant le modèle balois. En effet, les dernières votations ont à nouveau mis en évidence les divergences entre les villes de Zurich et Winterthur et les communes rurales du canton. Il y a peu de chances que cela aboutisse, car le reste de la Suisse devrait également accepter le divorce. Les deux chambres du Parlement se sont réunies en début de semaine à Berne pour trancher sur différents sujets comme l'élection de Guy Parmelin en tant que président de la Confédération pour l'année 2026. D'autres consultations ont eu lieu, les augmentations de budget pour la cybersécurité et la défense anti-drone ont été acceptées, tout comme le prolongement des concessions FM actuelles après 2026. En revanche, les subventions pour la liaison de nuit entre Bâle et Malmö ont été coupées à 99 voix contre 92. Elles devaient rentrer en service au printemps prochain. À l'étranger, l'UE planifie, elle, son réseau de trains à grande vitesse en contournant la Suisse. Le plan est ambitieux, avec par exemple des relations en 6 heures entre Paris et Madrid ou un peu plus de 10 heures entre Berlin et Rome. Les tunnels du Gotthard, du Lötschberg ou du Simplon ne seront donc pas empruntés par ces lignes longue distance. Le porte-parole de l'OFT, Michael Müller, évoque une Suisse en avance sur ses voisins qui n'auraient donc pas besoin de ce plan européen. Outre-Atlantique, l'agence américaine du médicament, la FDA, mène une enquête sur de possibles morts liées au vaccin contre le Covid-19. Lancée par le ministre Robert Kennedy Jr., connu pour avoir déjà relayé des fake news sur le sujet, la mesure est déjà décriée par une dizaine d'anciens responsables de la FDA. La date de conclusion de l'enquête n'est pas encore connue. Et pour finir, un peu de sport avec la Ligue des Champions de football. Hier soir, Liverpool, en méfant depuis le début de saison, a sorti la tête de l'eau grâce à un pénalty du Hongrois Szoboszlai à la 88e minute de jeu, face à l'Inter Milan. Le Bayern a de son côté remporté son match face au Sporting Portugal, tout comme l'Atalanta Bergame, vainqueur face au Londonien de Chelsea. Aujourd'hui, la grande affiche de la soirée oppose le Real de Madrid à Manchester City. Le coup d'envoi est prévu à 21h.
Fréquence banane, la météo.
Il fait actuellement 9 degrés sur Écublens avec un temps nuageux. Les températures vont descendre à 5 degrés dans la nuit avec un peu de vent de l'est. Demain, il fera exactement le même temps qu'aujourd'hui, donc habillez-vous exactement pareil. Les températures resteront élevées cette fin de semaine avec un temps plus ensoleillé. La pluie arrivera a priori en début de semaine prochaine.
18h-19h, Micropolis.
Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Grace, comment ça va?
Ça va super, et toi?
Ça va tranquille. Enzo?
Top, top.
Et Pierre à la tech?
Très, très bien.
Parfait. Alors aujourd'hui, ça sera une émission spéciale Canada. La poutine, les caribous et Justin Trudeau. Vous connaissez forcément ce magnifique pays de l'autre côté de l'Atlantique. On va discuter d'histoire, de faits insolites, d'Amérindiens et de récits de grand-mère. Et on va évidemment écouter des morceaux d'artistes canadiens. J'espère que cette émission va vous plaire. Sans plus tarder, on va écouter un des artistes les plus écoutés du monde, The Weeknd, avec Less Than Zero. J'espère que cette première musique vous a plu. Sans transition, on va parler d'histoire. Commençons par le commencement. Pourquoi il y a des gens au Canada? En oubliant le fait qu'on se les pèle et qu'on se pose pas la question de pourquoi il y a des gens qui veulent y vivre, comment est-ce que l'humanité a atterri là-bas? Des fouilles archéologiques sont remontées à 26 500 avant Jésus-Christ dans le nord de Yukon, qui est la région qui est à la frontière avec l'Alaska. Et comme vous l'avez peut-être deviné, ils sont passés par le détroit de Bering pendant une période d'intense glaciation qui leur a permis de traverser à pied. Détroit de Bering qui sépare l'actuelle Sibérie et l'actuelle Alaska. Petite ellipse jusqu'en l'an 1000, les Vikings ont établi des colonies en Vinland, l'actuelle Terre-Neuve, et en Markland, qu'on appelle de nos jours le Labrador, comme le chien, oui. Ce sont par conséquent les premiers Européens à découvrir l'Amérique, avant Christophe Colomb et de loin. Mais les Vikings ne sont pas les seuls à y être allés avant l'Italien. En effet, les Basques venaient pêcher la baleine et la morue proches des côtes de Terre-Neuve et du Labrador, avec au moins 9 avant-postes de pêche là-bas. D'autres pays européens se sont rapprochés de ces terres, surtout pour la pêche. On peut noter les Islandais, les Bretons, les Normands et plus tard, les Espagnols ou encore les Portugais. Mais passons la découverte par la pêche et attaquons-nous à la découverte par la curiosité et l'envie de pouvoir, ce qu'on appelle plus communément la colonisation. En 1500, un explorateur portugais cartographie les cartes du Labrador actuel et donne son nom à cette région. Il s'appelait João Fernandes Lavrador. Très mauvais accent, je m'en excuse. La même année, Gaspar Corte Real, un autre explorateur portugais, visite l'île de Terre-Neuve, mais retourne au Portugal avec des esclaves amérindiens. Mais attendez un peu, pourquoi est-ce qu'on y parle anglais et français alors ? Parce que là, je vous ai parlé que de portugais. Le Canada réfère à la base à une colonie française à l'emplacement de l'actuelle ville de Québec et faisant partie de la colonie de la Nouvelle-France. La fondation de cette ville date de 1534 par Jacques Cartier, que vous connaissez peut-être, et du développement des relations diplomatiques avec les Amérindiens de la région. Pour le côté anglais, des explorateurs tentent de découvrir le passage du Nord-Ouest et certains découvrent des terres pendant une circumnavigation du monde. Je peux citer Martin Frobisher, John Davis, Francis Drake et Henry Hudson. Évidemment, pendant ces découvertes par la mer, les colons avançaient à l'intérieur des terres, fondaient des villes, convertissaient et ainsi de suite. Les Anglais ont aussi essayé de fonder des villes en Terre-Neuve, mais sans grand succès. Mais la couronne anglaise a tout de même octroyé une charte royale donnant possession de Terre-Neuve à l'aventurier David Kirk en 1637. Mais ce fameux David Kirk, en 1629, donc 8 ans avant, prend possession de la ville de Québec. Et la France et la Nouvelle-France passent sous contrôle de l'Angleterre. 3 ans de négociations plus tard, la Nouvelle-France est restituée à la France avec la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye. Après de nombreuses guerres intercoloniales et des prises de contrôle pendant des guerres européennes comme la guerre de succession d'Espagne et un peu plus tard celle d'Autriche, la Nouvelle-France est rétrocédée à l'Empire britannique en 1763, à la fin de la guerre de 7 ans. Les institutions françaises sont peu à peu remplacées par les Britanniques, menant par exemple à l'établissement d'une assemblée législative en 1791. Avec la guerre d'indépendance des États-Unis, la fuite des loyalistes britanniques au Canada et certains conflits internes, le Québec est contraint à voir son territoire rétréci jusqu'au Grand Lac. À partir de 1791, le Canada de l'époque est séparé en deux. Le Haut-Canada, qui se situe sur une bande au-dessus des Grands Lacs, qui deviendra par la suite l'Ontario, accueillant les loyalistes de l'Empire uni, donc la Grande-Bretagne, et le Bas-Canada, qui correspond à la moitié est de l'actuel Québec, qui accueille les Canadiens français. Après des rébellions contre le pouvoir britannique, l'acte d'union de 1840 permet la création de la province du Canada, ou communément Canada uni, une colonie quasi-fédérale. En 1848, l'Institut canadien de Québec est fondé et a pour mission de promouvoir la culture francophone afin de contrecarrer l'influence grandissante de la culture britannique. Face à l'immigration britannique croissante, l'Église catholique tente de contrer l'effet de minorisation des francophones en encourageant la natalité, connue de nos jours sous le nom de guerre des berceaux. Ce qui a fonctionné car pendant cette époque, le Canada connaît un taux de natalité élevé et une immigration européenne massive. Le 1er juillet 1867, date importante, le Canada moderne est créé. Les colonies du Canada uni, Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse se sont unies pour former le Dominion du Canada. Cette date est considérée comme étant le jour de l'indépendance par rapport au Royaume-Uni. Mais le Dominion avait tout de même certains liens non négligeables avec l'ancienne métropole. En effet, la politique étrangère était dans les mains des Britanniques et la constitution ne pouvait être modifiée qu'au Royaume-Uni. Petit à petit, le Canada gagna de plus en plus d'indépendance et coupa le cordon en 1982 seulement, avec la réécriture de la constitution. Le Dominion du Canada, au moment de cette indépendance, débattait sur le nom que devrait avoir ce nouveau pays et sur le système politique. Pour le nom, le Canada aurait pu s'appeler Borealia, qui veut dire « nord » en latin, par opposition à l'Australie qui veut dire « sud ». Pour le régime politique, en appellation, c'est une confédération comme la Suisse, mais en pratique, c'est une fédération. mais ce n'est qu'une ruse pour garder certaines provinces, comme le Québec, dans le pays. Même si Georges-Étienne Cartier a beaucoup influencé le fait de garder une distribution des pouvoirs équitable au Canada pour que les francophones ne soient pas effacés par la majorité anglophone. Donc on peut remercier ce très cher Georges-Étienne d'avoir forcé à cette époque. Pendant le XXe siècle, le Canada a vécu à peu près les mêmes choses que l'Europe et les États-Unis, Première et Seconde Guerre mondiale, Grande Dépression et tutti quanti. Pour revenir au Québec, on peut noter énormément de discorde entre les anglophones et les francophones pendant tout le siècle, ce qui mène aujourd'hui à ce que beaucoup de décisions législatives soient prises par des organismes québécois et non canadiens. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé. J'ai découvert énormément de choses sur le Canada, mais étant un grand fan d'histoire, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai déjà dû réduire de moitié ce que j'avais écrit à la base, donc on va s'arrêter là et écouter un morceau d'une artiste de Vancouver, Grimes, avec son titre Genesis. Maintenant, on va voir des faits divers insolites par Enzo. Enzo, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le premier fait divers made in Canada, il se passe dans le petit village de Churchill, à pas confondre avec le président, au bord de la baie d'Hudson. Dans cette région, il y a chaque année une très grande migration d'ours polaires qui passe tout près des habitations. Tellement près qu'il est naturel pour les habitants de laisser les portes de leur voiture ou de leur maison ouvertes pour que d'autres personnes puissent s'y réfugier en cas d'attaque d'ours. Dans ce même village, il existe également une prison pour ours dans laquelle sont enfermés les plus agressifs. Ils sont ensuite bien évidemment relâchés loin de la civilisation. Pour continuer sur les ours, emblème animalier du pays quand même, parlons d'un homme de 63 ans de la région de Cranbrook dans l'est de la Colombie-Britannique. Il était parti chasser le dimanche 2 octobre dernier, donc c'est récent, et il s'est alors retrouvé nez à nez avec deux oursons grizzly et leur mère. Il s'est redressé pour tenter de les effrayer, mais la femelle s'est alors jetée sur lui. Il lui a tiré dans la hanche, mais ça n'a pas aidé. Elle était encore plus furieuse. S'en est suivi un échange de coups, l'homme étant un ancien boxeur. Il a réussi à arrêter l'attaque en faisant le mort, avant d'appeler l'aide avec son téléphone. Les secours feront état de côtes cassées, une partie du cuivre chevelu arraché, il a perdu un doigt et il a subi des traumatismes importants au visage, mais de son côté, la femelle grizzly a été retrouvée morte quelques jours plus tard. J'avoue, je n'ai pas trouvé si c'était à cause de l'attaque ou quoi, mais voilà, ils ont retrouvé la même Orson, enfin la même Orson morte. Autre fait divers récent, un éleveur québécois a vu son troupeau de vaches s'échapper de son enclos début juillet. Les animaux se sont éparpillés dans les grandes étendues au nord-est du Québec. Pour les retrouver, je vous laissais deviner, vous pensez qu'il a utilisé quoi comme objet ?
C'est de la nourriture ?
Non. C'est un objet où on se dit, enfin, qui est assez évident quand on y pense, mais assez récent aussi, et donc c'est pas naturel d'y penser directement, même pas du tout.
Un GPS ?
Non, il a utilisé, il avait un ami qui était conducteur de drone, et ça lui a permis donc d'en localiser une grande partie, et c'est pas un cas isolé, les éleveurs canadiens, ils semblent utiliser de plus en plus les drones pour surveiller leurs troupeaux. Enfin, c'est quand même pratique, vu les énormes étendues qu'il y a. On revient un peu plus dans le temps pour cette anecdote, et c'était en 2011. Comme vous le savez, le Canada produit les deux tiers de la production mondiale de sirop d'érable. Et entre 2011 et 2012, une ou plusieurs personnes, on ne sait pas, ont siphonné des milliers de barils stockés dans des réserves. Ils ont récupéré le précieux sirop et sont allés jusqu'à remplacer parfois par de l'eau. On peut se dire que c'est drôle, parce que bon, voilà, voler du sirop d'érable, on se dit c'est pas très grave, mais le vol a quand même été évalué à 18 millions de dollars. Ce qui est assez énorme. Mais il n'y a pas que le sirop d'érable qui est volé au Canada. En novembre 2018, dans la région de Vancouver, deux hommes de 23 et 25 ans ont été arrêtés pour être partis d'une épicerie sans payer avec un chariot rempli de beurre. Oui, ils ont volé du beurre, et pas qu'un peu. Il y en avait pour 1 400 $ quand même. Le plus jeune d'entre eux n'en était pas à son premier essai. Il était connu pour avoir déjà volé par 3 fois du beurre dans d'autres commerces du coin. Le caporal Michael McTosslin a réagi, non sans humour, en disant « Il est possible que ces suspects aient choisi la mauvaise méthode pour prendre une longueur d'avance sur leur pâtisserie de Noël. » J'ai trouvé ça très drôle. À la même année, un homme a cambriolé un restaurant de la chaîne de restauration rapide Tim Hortons, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. il a fait croire aux employés qu'il avait une arme et s'est enfui avec l'argent de la caisse. Pour quitter la ville, il a pris le ferry et qui rejoignait Halifax, de l'autre côté de la baie. Mauvaise idée parce que les policiers, ils ont juste eu à demander à l'équipage de faire demi-tour et ils l'ont cueilli à l'arrivée. Parce qu'en fait, il n'avait pas d'arme, donc ils ont juste demandé à l'équipage. Voilà. Un peu bête. Changeons maintenant d'époque et revenons à la Seconde Guerre mondiale. La princesse Juliana des Pays-Bas est en exil au Canada et attend un enfant. Mais au Canada, le droit du sol est appliqué et il est impensable pour le protocole qu'une personne de la famille royale ait une double nationalité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déclaré une partie de la maternité, pas toute, seulement une partie, comme zone internationale. Comme ça, bah, elle n'était pas canadienne. Elle était juste néerlandaise. Revenons à l'actualité et à une campagne de sensibilisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC. En octobre 2019, il publie sur les réseaux une vidéo qui a fait beaucoup parler. Je l'ai même revue il y a quelques jours, repostée sur les réseaux. Donc on y voit un passage piéton où aucun automobiliste ne s'arrête. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé un système qui fait se lever les bandes jaunes et créer une barrière physique entre les voitures et les piétons. De ce que j'ai vu, c'est des bandes en métal du coup qui mettaient dans le sol et qui faisaient se relever. Et ça a été tellement partagé que les gens ont cru à force que c'était vrai. Alors que bon, il est évident que non. Le SAC est d'ailleurs reconnu pour ses opérations de sensibilisation très créatives et je vous encourage à aller en voir sur leur chaîne YouTube, vous risquez de passer un bon moment. Et pour finir, une anecdote assez courte, mais bien pour finir. Un homme de 44 ans a été arrêté dans la petite ville de Selkirk pour avoir crevé 45 pneus sur 23 voitures différentes. Essayez de deviner pourquoi est-ce que cette anecdote est dans cette chronique. Donc il a juste crevé des pneus.
Et il en a crevé beaucoup quand même.
Il en a crevé beaucoup. Pourquoi est-ce que vous pensez que je l'ai mise?
Parce que c'est un ours qui a crevé des pneus.
Non. <C'est... rire> non, c'est en fait elles étaient toutes rouges, les voitures. Ah. Il a pris que des voitures rouges.
Donc il n'aime pas le Canada en fait.
Oui, en plus. Et pour comprendre les intentions derrière de tels crimes, je vais citer la porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada. Qui nous dit, je cite, « Il n'y a aucune explication. » Okay. Je suis donc allé voir les réactions des gens sur Reddit, et un dénommé Horse Force nous propose une mauvaise expérience avec Flash McQueen, et un autre qui s'appelle Bugfutter underscore Inc., il évoque l'influence de la Met. Bon, je vous laisse vous faire un avis, mais voilà, c'était ma dernière anecdote.
Merci beaucoup Enzo.
Merci à toi.
On va passer sur plus rien des cow-boys fringants. On va maintenant passer à Pierre, qui va nous parler des Amérindiens dans la pop culture.
Ah, Yakari. Je ne sais pas vous, mais pour moi, Yakari, c'est un de mes souvenirs d'enfance les plus marquants. Surtout les bandes dessinées, moins les dessins animés. Mais, pour ceux qui ne connaîtraient pas Yakari, c'est quoi? Une BD suisse. Créée en 1969 par Job, Derib et Dominique, elle paraît d'abord dans l'hebdomadaire roman Le Crapaud à lunettes. Ensuite, les albums sont édités aux éditions 24h, Dargo, puis Casterman et finalement Lombard depuis 1999. Yakari, c'est un enfant sioux qui a le pouvoir de parler aux animaux qu'il croise. Il est accompagné de son ami Arc-en-Ciel et de son poney Petit Tonnerre, et il est guidé par Grand Aigle, son totem. Yakari, c'est une BD plutôt pour enfants, mais qui peut se relire à tout âge, et qui met en avant un sujet qui est, on ne peut plus d'actualité, l'écologie. L'approche est de faire aimer la nature, les animaux, en leur donnant une voix. Mais aussi en montrant des espèces en voie d'extinction. Bref, Yakari, c'est une des BD les plus jolies que j'ai lues, presque envoûtante. On se lie d'amitié à ses héros et héroïnes, et pour moi c'est un must pour les enfants. Mais comme je l'ai dit, Yakari est un Sioux, de la tribu Lakota. Les Sioux sont un groupe ethnique important vivant entre nord des États-Unis et Canada. Ce groupe se divise en trois grandes tribus, les Dakota, les Nakota et les Lakota. Ceux-ci font partie de ceux qu'on appelle les autochtones d'Amérique, qui ont subi la colonisation et la conquête de l'Ouest, entre racisme, esclavage, épidémie, mise en exil de leur territoire ou encore la disparition progressive de la culture. Dès le 15e siècle, leur nombre diminue, et de nombreux peuples disparaissent avec leur langue et leur culture. Mais depuis les années 1960, ils revendiquent leur identité, et deviennent des symboles de la lutte pour l'environnement. Et c'est ça que Derib monte dans Yakari. Pour lui, l'Indien symbolise le respect de la vie, de la planète, de la nature, des animaux. Et il veut le dessiner de façon intelligente, sans les caricaturer. Mais qu'en est-il dans le reste de la culture populaire? Restons dans les bandes dessinées. et penchons-nous sur le cas de Lucky Luke, le cow-boy qui tire plus vite que son ombre. Ici, l'image des Amérindiens dépend des albums. Dans certains, leur place est minime et ils sont mis en scène négativement. Par exemple, ils sont peureux, naïfs ou brutaux face aux Dalton, les bandits que Lucky Luke ramène constamment en prison. Dans d'autres, comme la Diligence ou la Caravane, ils jouent un rôle prépondérant pour l'histoire. Toutefois, l'homme blanc a toujours l'ascendant et les utilise en jouant sur leur crédulité. Dans d'autres encore, par exemple Chasseurs de Primes, ils sont influencés par des hommes blancs, que ce soit les Dalton ou des Chasseurs de Primes, qui les poussent à attaquer leurs ennemis. Finalement, dans Canyon Apache, environ 44% des planches montrent des autochtones. Ceux-ci jouent un rôle principal de la BD alors, au travers de leur chef Patronymo et de son sorcier, tous deux métis, c'est-à-dire d'origine autochtone et des colons. Cela montre la perte de leur culture par le contact avec les blancs, au travers d'un processus d'acculturation-déculturation. Goscinny suggère presque que leur violence vient de ce contact avec les blancs. Dans plusieurs albums, on voit aussi les autochtones ivres à cause de l'alcool apporté par les Européens. En gros, on voit surtout une image négative, qui correspond au cliché et qui ne change pas l'image qu'a un enfant de ces cultures. Mais la BD montre aussi plusieurs manières par lesquelles les Européens ont, notamment par la colonisation, fait disparaître la culture des autochtones et s'en montre critique. Quant à l'apparence physique, pour les BD, ça peut être un sujet de débat. Le propre des bandes dessinées étant souvent de caricaturer ces personnages. Et bien sûr, quand on pense aux Amérindiens, on pense aux westerns. Dès le début du cinéma américain, on leur accorde une place importante. Par exemple, en 1894, dans Buffalo Dance ou Sioux Ghost Dance, des courts-métrages de Thomas Edison et William Kennedy Laurie Dixon, le western naît en 1903 et on introduit les autochtones pour compléter l'image du Far West. Les histoires se passent généralement dans les années 1860 à 1890, durant lesquelles il y a eu de nombreuses guerres amérindiennes. La médiatisation de celles-ci a créé un cliché des autochtones brutaux, et c'est ainsi qu'on les a représentés dans les westerns qui se passaient à cette période. Mais on les utilisait aussi pour représenter la sauvagerie et la nature. On les associe aussi aux chapeaux à plumes, aux costumes et aux armes blanches. On peut aussi dénoter plusieurs styles de western, selon le parcours du protagoniste, entre versants, entre guillemets, civilisés ou sauvages. Dans certains, le héros finit du côté civilisé, et donc les Amérindiens sont perçus négativement du côté sauvage. C'est le cas de Wells Fargo ou Red River. Dans d'autres cas, par exemple Eldorado, le héros s'indianise, c'est-à-dire qu'il finit du côté des Indiens. Et là, ils sont perçus plutôt positivement. L'autochtone alors devient le bon Indien, alors que la civilisation est perçue comme méchante. Bref, on est loin d'avoir fait le tour, mais je trouve que ça nous donne un bon aperçu de l'image des autochtones dans la culture populaire. Et cette image, elle est importante. Notre cerveau l'utilise pour se représenter ces gens que l'on ne connaît pas. Et c'est comme ça que naissent les clichés. Alors on comprend qu'entre Yarkari ou certains externes, l'image qu'on s'en fait change. Mais vous, et sans jugement bien sûr, c'est quoi votre représentation des Amérindiens ?
Alors, honnêtement, comme on a vu tellement, bah justement, comme tu l'as expliqué, dans la pop culture, on l'a vu, je pense on les a vus plus négativement, je dirais. Mais avec toute la prise de conscience qu'on a, surtout ces dernières années, ben, en tout cas moi, je me doute qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça. Après, est-ce que je suis allé m'informer sur leur vie, est-ce qu'ils étaient vraiment bons, est-ce qu'ils étaient vraiment bons ou vraiment mauvais ? Ça, non. Mais je me doute qu'ils n'étaient pas tout blanc ou tout noir.
Ouais. Enzo ? Moi, c'est un peu pareil parce que, j'adore Yakari.
Oui,
j'adore. J'ai pas assez vu et lu quand j'étais petit Yakari. Il faut que je m'y penche un jour. Je penche dessus. Mais en fait, ça dépend tellement. J'arrive pas à me faire le lien entre Yakari et par exemple un western où l'Amérindien va être le méchant.
Ouais,
pour, pour moi, c'est juste pas les mêmes. Enfin, c'est comme dans toute. Tout groupe de personnes, il y a des gens qui sont gentils, des gens qui sont méchants, et ça dépend des situations. Du coup, je parle loin là. je vais revenir sur les Amérindiens. Mais je sais pas. J'ai pas d'a priori ou quoi, c'est juste ils étaient là avant, on leur a fait chier, beaucoup longtemps. Et c'est bien qu'ils vivent toujours là, qu'ils gardent leur culture, qui est quand même extrêmement riche.
Ouais. Et qui est vachement en danger en ce moment.
C'est aberrant.
Et toi, Grace?
Moi, j'ai pas trop d'avis sur ça. Quand j'étais petite, on regardait les films Winnetou. Je sais pas si vous connaissez.
Oui.
Avec mes cousins suisse-allemands. Mm. Et je crois qu'ils étaient assez violents, il me semble.
Ouais. Ouais. Et... très, très. Si je pourrais dire raciste, le film.
Ah ouais?
Ouais. Beaucoup de clichés.
Je me souviens pas trop parce que du coup, j'étais petite, alors j'avais pas le. Je pense.
Nous, on l'avait vu en cours d'allemand. Okay. Et bah, la prof disait ouais, c'était bien. Nous, on voyait que c'était quand même un peu, voilà, un peu limite.
Ouais.
Mais après, de mémoire, c'était pas de mauvais film.
Ouais. Mais je crois que c'était assez violent et mes cousins, ils trouvaient ça stylé.
Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Pierre. On va passer sur ta musique qui est My Heart Will Go On de Céline Dion. C'était Céline Dion sur Fréquence Banane. Maintenant, on va écouter Grace qui va nous chanter. Non, elle va pas nous chanter. Elle va parler des récits du Canada de sa grand-mère.
Oui. Merci, Mathéo. Oui, du coup, ouais, je vais vous parler des expériences avec le Canada d'une personne qui est un peu comme ma grand-mère. En fait, c'est ma nounou de quand j'étais petite. Mais aujourd'hui, elle a 84 ans. Alors, je savais qu'elle avait vécu au Canada à un moment et du coup, je l'ai appelée hier soir pour en savoir un peu plus. Et elle m'a raconté qu'elle y a vécu de 1970 à 1972 pendant 2 ans et qu'elle avait 30 ans à l'époque. Enfin, elle a eu 30 ans au Canada. Et là-bas, elle était prof de français dans une école à Montréal. Elle a eu cette opportunité en répondant à une annonce dans le journal. Du coup, le poste, enfin, elle a trouvé le poste d'enseignante dans l'école. Et après, elle a fait un entretien à Genève. Et c'est comme ça qu'elle est partie au Canada. Et du coup, attention, j'ai une question pour un babane maintenant un peu à l'avance. Est-ce que vous pensez que les annonces dans la presse, elles représentaient quelle part des emplois pourvus en 1970, en pourcentage ?
Les emplois dans le pays même ou dans... ou l'autre côté de la
terre ?
Parce que c'est quand même
que
hyper
ça...
étonnant. Si tu lis un journal à Genève et tu te retrouves au Canada,
ouais. En vrai, c'est juste une stat générale genre dans les pays occidentaux, je crois.
70%.
Ouais, moi je dirais la même.
75. Ok. Bah du coup, on estime que c'est potentiellement plus de 50% ou même jusqu'à 70 ou 80% pour certains types de postes.
On
du
est
coup,
bon.
Vous êtes... Je m'y attendais pas.
Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque.
Ouais, oui, c'est pour ça. C'est juste dire qu'il n'y avait pas les réseaux. Donc.
Ouais. Alors, elle est partie au Canada en juillet 1970 en bateau. Sur le France, qui était un magnifique bateau français. Ils sont partis du Havre et ils ont traversé l'Atlantique jusqu'à New York en 5 jours. C'était un bateau absolument superbe. Il y avait 2 piscines, une grande pour la classe touristique et une petite pour la première classe. Et en vrai, il y avait des vols à l'époque, mais juste elle a choisi d'aller en bateau parce qu'elle pensait que la vie sur le bateau, ce serait une chose à vivre. Et du coup, j'étais curieuse et j'ai regardé. Mais vous pensez quoi ? Vous pensez que c'était en quelle année que les vols de l'Europe vers l'Amérique, ils ont été popularisés ?
Popularisé.
Ouais.
J'aurais dit année juste après la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, moi j'aurais dit c'est quoi, elle est partie en 1970.
Ah, ouais, 1970.
Ouais, moi j'aurais dit ces eux-là.
Ouais, moi aussi.
Pas beaucoup plus tard.
Ok. Du coup, ils ont été établis, mais pas popularisés dans la fin des années 1940. Du coup, t'avais un peu raison, okay. Mathéo. Mmh. Pour ça, et les années 1950, et ils ont été popularisés massivement avec l'arrivée des jets commerciaux au début des années 1960.
Ok. Ah oui, c'est plutôt ok.
Du coup, un petit peu plus tôt, mais en vrai, ouais, c'était proche. Alors, ouais, quand je lui ai parlé, je me suis demandé comment elle avait fait au début, avant d'avoir un salaire, pour gérer son argent sans carte bancaire et sans tel comme on a de nos jours, parce qu'elle a quand même voyagé en Amérique pendant un mois avant de travailler aussi là-bas. Et du coup, elle m'a dit qu'elle avait pris des dollars canadiens qu'elle mettait sur elle, sur les côtés de son ventre et dans le dos, avec dans des petites poches. Et elle a vécu avec cet argent-là, comme ça, avec toute sa vie sur elle. Et elle en avait pas mal quand même pour pouvoir voyager pendant un mois. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, moi, je sais que quand je voyage, j'ai mon tel et mes cartes bancaires et tout, et je sais que je peux m'en sortir dans n'importe quelle n'importe quelle situation, un peu, pardon. Genre, si... Bon, après, c'est différent parce qu'on a une vingtaine, on n'a pas 30 ans. Mais si j'ai plus d'argent, je peux demander à mes parents. Il y a toujours une solution à trouver. Et j'étais un peu étonnée qu'elle n'ait pas peur parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas peur. Et vous, du coup, vous vous sentez comment par rapport à ça ? Est-ce que vous auriez été serein, vous pensez ?
Avoir autant de liquide sur soi ?
Oui, même de nos jours, même si t'es pas en voyage en vrai.
Bah, je pense en tant qu'homme, ça va. Je pense que les femmes vont avoir peut-être un peu plus peur.
Ouais.
Voilà. Ouais. Fin de ce que j'ai dit.
Moi, j'avoue, j'ai pas trop, jamais trop pensé. Enfin, c'est plus, c'est pas trop pratique le liquide. Enfin, c'est plus trop pratique.
Ouais.
C'est quand même plus simple d'avoir son téléphone, de l'ouvrir et c'est bon, Twint ou voilà. Donc, mais ouais. Et aussi, bon, on est une génération, on n'a jamais vraiment connu le liquide.
Oui, c'est vrai.
Enfin, j'ai. Enfin,
t'abuses un
petit
peu.
Petit, petit.
Ouais, t'abuses vraiment. Mais, oui, alors oui, non, ça oui, je suis d'accord. Quoi, quand les premières argent de poche, quand on était tout petit. Mais
non, je paye encore en espèces, moi.
Ah ouais.
Ah, ok.
Ouais.
Ouais, non, moi j'ai jamais.
Bon, j'ai bientôt plus d'espèces. Mais
c'est une espèce en voie de disparition.
C'est ça, exactement.
Ok. Alors je continue. Du coup, pendant les 2 ans au Canada, elle envoyait des lettres à ses parents parce que c'était 1970. Et elle les a appelés une fois à Noël depuis la poste, parce qu'il fallait aller payer pour l'appel. Et du coup, elle les avait prévenus à l'avance par écrit, par courrier, qu'elle allait les appeler à 22h à Noël. Et du coup, je me suis dit, ça change de moi qui appelle ma famille en FaceTime tous les 2 jours maintenant. Alors, je voulais savoir, vous appelez vos parents tous les combien de temps? Parce que je sais que vous habitez plus chez vos parents. Après, il y en a qui rentrent tous les week-ends, alors vous les voyez quand même souvent.
Moi, je les vois quasi tous les week-ends, du coup, ça va. Mais ouais.
Ouais, bon, pareil.
Je pense en moyenne, je leur parle en tout cas une fois, une fois par semaine ou les week-ends ou plus après. Ouais.
Alors, moi, je les vois pendant les vacances d'été et à Noël seulement. Mais du coup, je pense que je les appelle séparément. Ils vivent ensemble, hein, mais je les appelle séparément. Je pense tous les 5 jours, à peu près.
Okay.
Du coup, tous les 10 jours chacun. Tous les 5 jours.
Non, tous les 5 jours chacun.
Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, bon, j'ai plus de temps maintenant, j'ai plein d'anecdotes encore de Jacqueline, mais ouais, du coup, tu peux passer à.
Ok. Bah, merci beaucoup. Peut-être si on a un peu de temps, ça m'étonnerait, mais à la fin, tu pourras nous raconter d'autres trucs. Et on va passer à This Is Why de Saya Gray. C'est l'heure de questions pour un baban,
ouais.
Édition Québec. Édition, donc questions pour un baban québécois. Donc il me semble que c'est la 4e édition de questions pour un baban. J'espère que vous êtes chaud. Donc pour cette édition-là, je vous ai préparé quelques questions. Qui sont plus... donc, c'est des noms de trucs. Je vais pas... Bon, en vrai, je vais vous dire quelques catégories. Par exemple, les groupes de musique ou des films. J'ai pris les noms et je les ai traduits plus ou moins littéralement en français.
Okay.
Par exemple, quand on a eu l'idée, on avait pensé à Coldplay, qui serait devenu « Jeu froid ».
Il faut le dire, c'est quand même la raison pour laquelle on fait cette émission.
Oui, ça, l'idée du Canada vient de ce truc-là. Donc, normalement, ce n'est pas des noms qui existent vraiment. Ce n'est pas des vraies traductions du Québec. Mais voilà, donc plus ou moins littéral. On verra qui sera le meilleur Québécois parmi vous trois. Alors, je commence. Le système du bas.
Down System?
Non. C'est un groupe de métal, il me semble.
C'était loin, ma réponse, c'était...
Non.
Ok.
Faut juste inverser.
System Down.
System of a Down. Okay. Ah ouais, j'ai jamais fait la traduction.
Piment rouge et chaud.
Ouais, Red Hot Chili Peppers.
Oui. Alors j'espère vous compter. Je vous laisse compter les points parce que je peux pas. J'ai la flemme. Les trucs plus bizarres.
Weirdest things.
Stranger Things.
Exactement. JZ.
Jay-Z.
Que nous deux. C'est le titre d'une musique.
Only Two of Us.
Ah, Just the Two of Us.
Just the Two of Us. De Grover Washington Jr. Ensuite, on a Glaçon. qui est un artiste.
Ah, c'est Ice Cube.
C'est Ice Cube. Un autre.
C'est plus simple pour toi en fait.
T'es anglophone de base donc.
Voilà, je me suis dit, je vais peut-être pousser certains un peu loin parce qu'il y a Grace au cas où. Et elle aura peut-être plus de vocabulaire. Un autre mord la poussière.
Another one bites the dust.
Exactement. La vieille bague.
Aldrin.
Non. Mais c'est un jeu vidéo. Qui est sorti il y a pas longtemps.
Ah, bah j'ai pas alors.
Eldring, il y a pas un truc. Je connais pas les jeux vidéo, mais ça me dit un truc.
T'as dit quoi?
Eldring, non.
Elder Ring.
Elden Ring.
Elden Ring, ok.
La boule du dragon.
Dragon Ball.
Dragon Ball, exactement. Donc il y a aussi des mangas slash animés.
Ok.
Quelques-uns. Caillouteux.
Rocky.
Rocky, en effet.
Il est fort.
Les canneberges.
Cranberries. The Cranberries.
The Cranberries, le groupe de musique. Ensuite, arme à feu, copule.
Je disais Guns N' Roses, mais je suis pas sûr que ce soit ça, non.
Si ça peut vous aider, c'est arme à feu au
Sex foyer. Pistols.
Sex Pistols.
Oh, wow.
Balle de chewing-gum.
Gumball.
Gumball, oui. En effet. Ensuite, une période de 15 jours.
2 weeks. Non. 15 days period.
Non. C'est beaucoup moins littéral. Okay. C'est un mot qui est. C'est en un seul mot, ça représente ça.
Et je l'ai vu l'autre jour, mais je connais pas le mot en anglais.
Ça représente un jeu qui est un des jeux les plus joués en ce moment et depuis, je pense, presque 10 ans. C'est.
Twister ?
Non.
Non, un truc, ça commence par un T, non ?
Non.
Ok.
C'est Fortnite.
Ok.
Mais du coup, la période de 15 jours, c'est Fortnite avec night comme la nuit.
Ah,
et pas night,
oui.
N-I-T-E okay. comme le jeu.
C'est aussi okay. une chanson de Taylor Swift.
Eau de Javel.
C'est Bleach, non ?
Bleach.
Mais.
Oui,
c'est un manga.
C'est un manga.
C'est un manga. Le jeu de la pieuvre.
Octopus Game.
Ah, Squid Game.
Squid Game. Les pois au cocard. Non ?
C'est quoi le cocard ?
Black Eyed Peas.
Les Black Eyed Peas. Le cocard, c'est un œil au beurre noir.
Ah, ok, oui.
Mais ok. Ah oui, ok. C'est mangé.
Parce qu'à chaque fois, faut.
Oui, du coup, Black Eyed.
Oui, je vois.
Un cocard, peas, pois. Ouais. Style poilu.
Harry Styles.
Harry Styles. Mais... Donc là, je joue un peu avec.
Mais c'est le nom d'un mec. Ouais.
Oui, c'est un artiste. Okay, c'est okay. un artiste. Okay. Bon, celui-là, je pense que je vais skip un peu trop dur. Ensuite, 4 voies vers un endroit pas très sympa. très peu littéral, mais une 4 voies vers un endroit pas très sympa.
Highway to Hell.
Oui.
Ah, joli.
Highway to Hell de AC/DC. Ensuite, les mecs.
The guys.
Non.
The boys.
The boys, la série.
Ah, oui, la série.
Tailleur rapide.
Tailleur rapide.
Tailleur.
Flash McQueen.
Rapide. Non.
Non.
Je pense Grace, tu l'as.
Ah bon ?
Je pense sûr.
Mais en fait, je crois que c'est Tailleur.
Ah, Taylor Swift.
Taylor Swift.
Ok.
Taylor, c'est un tailleur. Tailleur de okay, costume. Pas tailleur okay. de pierre.
Ouais. Ah, c'était pour moi.
Ensuite, on a une DEL dirigeable.
Mais c'est quoi une DEL ?
DEL, D-E-L.
Ça m'aide pas.
On le voit en électronique, en électricité ?
On n'a pas l'électricité.
Ouais.
Non ?
J'ai pas.
DEL, du coup, c'est la traduction en français d'une LED. Et du coup, c'est Led Zeppelin. Le groupe.
Okay, joli.
Donc Zeppelin qui est un type de dirigeable. Ah. Le championnat des légendes.
Champions League.
Non. C'est un jeu vidéo. Multijoueur.
League of Legends.
League of Legends. Je sais. On en fait quelques-unes en plus. On a un peu moins d'une minute.
Tu en fais une dernière.
Une dernière, allez.
Une dernière. Bon, je choisis une qui est un peu sympa. Je vais prendre celle-là. Les singes qui ont très froid.
Arctic Monkeys.
Arctic Monkeys, effectivement. Du coup, combien de points est-ce que vous avez ?
Moi, j'en ai 5.
Moi, j'en ai 9.
9 ?
J'aurais dit 6 ou 7.
Bah, c'est Grace qui gagne cette quatrième édition de Questions pour un Baban. Donc, vous nous entendez pas parce qu'on n'applaudit pas, mais on applaudit physiquement.
Voilà. Merci les bruiteurs en fond.
Donc, c'est terminé pour cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais pas dû dire. mais du coup, je sais pas quoi dire. Mais suivez-nous sur
Instagram.
Sur Instagram, Fréquence Banane. Suivez les autres émissions. Et surtout, suivez notre émission les mercredis. Surtout la dernière qui sera le Café Kawa, mercredi prochain à 7h du matin. J'espère que vous nous suivrez. C'est horrible. J'espère que votre soirée se passera bien. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Fréquence Banane, les infos.
À Lausanne, les fonctionnaires sont À Lausanne, les fonctionnaires sont à nouveau descendus dans la rue hier soir pour protester contre le projet de budget 2026. En effet, ce dernier prévoit des économies à hauteur de 305 millions de francs. Une voiture a perturbé le défilé en circulant au milieu des plus de 20 000 personnes présentes dans le défilé. Il n'y a pas eu de blessés. À Zurich, une pétition anonyme réclame la séparation entre la ville et le reste du canton suivant le modèle balois. En effet, les dernières votations ont à nouveau mis en évidence les divergences entre les villes de Zurich et Winterthur et les communes rurales du canton. Il n'y a peu de chances que cela aboutisse car le reste de la Suisse devrait également accepter le divorce. Les deux chambres du Parlement se sont réunies en début de semaine à Berne pour trancher sur différents sujets. Par exemple, l'élection de Guy Parmelin a été confirmée pour l'année 2026. Il sera président de la Confédération. D'autres consultations ont eu lieu. Des augmentations des budgets pour la cybersécurité et la défense anti-drone ont été acceptées, tout comme le prolongement des concessions FM actuelles après 2026. En revanche, les subventions pour la liaison de nuit entre Bâle et Malmö ont été coupées à 99 voix contre 92. Elles devaient rentrer en vigueur, en service surtout, au printemps prochain. À l'étranger, l'UE planifie son réseau de trains à grande vitesse en contournant la Suisse. Le plan est ambitieux, avec par exemple des relations en 6 heures entre Paris et Madrid, ou en un peu plus de 10 heures entre Berlin et Rome. Les tunnels de Gotthard du Lutschberg...
Pardon.
Tu vas perturber avec ton truc. Du Lutschberg et du Simplon ne seront pas empruntés. Pas empruntés pour ces lignes longue distance. Le porte-parole de l'OFT, Michael Müller, évoque une Suisse en avance sur ses voisins qui n'auraient donc pas besoin de ce plan européen. Outre-Atlantique, l'agence américaine de médicaments, la FDA, mène une enquête sur de possibles morts liées au vaccin contre le Covid-19. Lancé par le ministre Robert Kennedy Jr., connu pour avoir déjà relayé des fake news sur le sujet, les mesures sont déjà décriées par une dizaine d'anciens responsables de la FDA. La date de conclusion de l'enquête n'est pas encore connue.
Fréquence Banane, la météo.
Il fait actuellement 9 degrés sur Écublanc avec un temps nuageux. La nuit sera nuageuse également avec des températures qui vont descendre jusqu'à 5 degrés. Demain, il fera exactement le même temps qu'aujourd'hui, donc habillez-vous exactement pareil, je vous conseille. Les températures resteront élevées cette fin de semaine avec un temps plus ensoleillé. La pluie arrivera a priori en début de semaine prochaine. Bonne soirée.